Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Fabienne Pascaud et Philippe Chevillet se font face. À notre sommaire, les Français d'après À la recherche du temps perdu de Marcel Proust par Christophe Varikovsky. Bettencourt Boulevard ou une histoire de France de Michel Vinaver, mise en scène par Christian Schiaretti. Je passerai en fin d'émission un coup de fil à la metteur en scène Argiro Ciotti. Vers 21h20, Antoine Guillaume nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Matotti Infini au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture. C'est jusqu'au 6 mars à Landerneau. Enfin, nous avons rendez-vous avec la galeriste Chantal Crouzel, qui est toute cette semaine l'invitée de La Dispute. Ouvrons cette dispute en révélant à nos auditrices et auditeurs, Fabienne Pascaud et Philippe Chevillet, que nous avons passé le week-end ensemble à Clermont-Ferrand.
Wow.
Voilà, la vérité à notre auditoire. Alors, ce n'était pas pour l'anniversaire de Philippe Chevillet, parce que c'est aujourd'hui. Bon anniversaire,
Philippe. Merci.
Bon, on l'a fêté un petit peu en avance, mais bon, quand même, c'est aujourd'hui, donc c'est important de le dire. Nous avons été, cela dit, très bien accueillis par toute l'équipe de la Comédie de Clermont-Ferrand, du directeur Jean-Marc Grangier à Émilie Fernandez, qui est chargée des relations médias, et tous les autres. C'est vrai que cette Comédie de Clermont-Ferrand, je la cite souvent dans La Dispute, parmi les dates des tournées, des spectacles dont nous parlons, parce que c'est un théâtre qui s'est imposé depuis longtemps, comme une escale recherchée par les artistes, et c'est la preuve en est celle de la fidélité de Christophe Varikovsky, le metteur en scène polonais qui joue régulièrement en première française ses spectacles à Clermont-Ferrand. C'est le cas avec Les Français, d'après La recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui a été présenté ce week-end, une coproduction de la Comédie de Clermont-Ferrand. D'autres représentations auront lieu en France et en Suisse, les 31 janvier à la Comédie de Reims, du 11 au 13 février à Genève, les 22 et 23 mars au Parvis à Tarbes, et la saison prochaine, du 18 au 25 novembre au Théâtre de Chaillot à Paris, et les 2 et 3 décembre à la Fédérature de Mulhouse. Donc cette dispute vous intéresse, vous qui habitez non loin des lieux que je viens de citer.
On mi mówi, wyskoczę z czwartego piętra, jak do mnie nie przyjdziesz. No to skacz. No skacz!
Wszyscy są winni.
Życie to jest okropna rzecz.
Ogólnej porażki wszystkiego.
Nie umyj, to ty tak czujesz.
Ja czy ty?
Żydowska solidarność duchowa to publiczne niebezpieczeństwo.
Stronią jedni od drugich. I tak jak Żydzi złączeni przez ostracyzm nabierają w końcu fizycznych i moralnych cech rasy.
Dłużej patrzeć na tę epokę, która od 100 lat sprawia wrażenie niekończącego się porodu. Kocham!
I wciąż nie znalazłem miejsca w murze.
Jakiej prawdy pan poszukuje?
Istne camposanto.
Czy może wolicie trzymać nas po tej stronie cmentarza?
Zrobiłem wszystko, co mogłem, by się oszczędzić. Pozostałem chętny.
Voilà pour ce. Alors on dit 10 heures en mauvais français, on dit bande-annonce, montage, voilà pour donner une idée de ces français. Alors, idée qui me semble, je le découvre en même temps que nos auditeurs, qui me semble assez fausse, parce que ça crie peu, hein, pendant les 4 heures à peu près de représentation, 4 heures et demie avec Entracte. Nous avons synchronisé nos montres, n'est-ce pas, Fabienne Pascaud.
4h40.
Non, 4h30, et même un peu moins, puisque ça a commencé à 18h08, ça s'est achevé à 22h30, pétante.
Bon, le pinaillon.
Non, vous avez vraiment un problème d'horlogerie, mais ce n'est pas le sujet de cette dispute. Commençons sur les Français, Fabienne.
Moi, j'ai été déçue par le spectacle dont j'attendais beaucoup. Bien sûr, j'étais ravie d'aller retrouver Jean-Marc Granger à Clermont-Ferrand, mais c'était quand même une petite trotte. Et j'ai été déçue parce que, d'abord intitulé « Les Français », un spectacle autour de Proust et prétendre raconter la France, sans doute à travers un chef-d'œuvre de notre culture, pourquoi pas, c'est un peu agaçant ce terme générique, les Français. Ensuite, j'y ai retrouvé que Christophe Warlikowski, qui a beaucoup de talent, et on le sait, on en a beaucoup parlé, bien se répétait, c'était un petit peu toujours le même espace scénique qu'il nous imposait, et là, celui-ci ressemble beaucoup à celui qu'il vient de faire à l'opéra, pour...
Voilà, tout à fait.
Ce qui l'intéresse de Proust, c'est complètement caricatural. À mon avis, il n'a pas assez travaillé son adaptation de Proust. D'ailleurs, je vais vous citer quelques lignes du dossier de presse. Proust a pris un coup de vieux. Son tourment, qui s'étend sur 7 tomes, écrit dans un langage estampillé de chancellerie, irrite le lecteur. La lettre est peut-être belle, mais n'en demeure pas moins religieusement ennuyeuse. Quand on pense ça de Proust, à quoi ça sert de le monter? Surtout si c'est pour nous dire que Proust est un summum d'antisémitisme, ce qui n'est pas le cas. Hein, dans la recherche, non. On peut même dire que le modèle d'Oriane Guermande, qui était la comtesse de Greffuhl, a pris parti pour Dreyfus. Donc là, il aurait dû un peu plus travailler. Et la chose aussi, mis à part l'homosexualité qui intéresse Warlikowski, c'est la judéité, bien entendu, et l'homosexualité. C'est bien, mais ça nous vaut des scènes. Alors évidemment, il y a quelques perles, hein, il y a quelques moments très très beaux, parce que c'est admirablement interprété par des acteurs toujours électriques, un peu hystériques, et qui laissent passer la passion, qui sont toujours à l'extrême d'eux-mêmes. Mais je trouve que visuellement, c'est pas beau du tout. Les vidéos dont on nous affuble à longueur de temps des baisers interminables entre les sexes les plus variés, des images d'insectes, de copulations d'insectes, des images de fleurs... Je trouve qu'il s'est planté. Et puis terminé par Phèdre. Alors on sait et on espère que Phèdre, qui est son prochain spectacle avec Isabelle Huppert, qui était d'ailleurs dans la salle elle aussi ce soir-là, sera merveilleux. Mais terminé par Phèdre. Alors c'est sans doute encore un chef-d'œuvre français qui vaut le titre générique Phèdre. Mais franchement non.
Bon. Alors, on va peut-être creuser un petit peu, mais d'abord l'avis de Philippe Chevillier, qui a tous les droits sur son anniversaire.
Peut dire ce qu'il veut. Tous les droits, je ne serais pas d'accord exceptionnellement avec Fabienne. Alors moi, c'est vrai que quand on regarde la note d'intention, c'est un peu à la hache, mais ce qu'on voit sur scène, c'est quand même pas tout à fait ça, parce que c'est vrai que la dimension de l'antisémitisme de certains personnages, la bisexualité, l'homosexualité, ça existe dans le texte, et c'est vrai que ce qu'on voit sur scène nous le représente de façon un peu exacerbée, mais c'est pas vraiment le personnage, parce que quand même on s'identifie, Proust c'est quand même le personnage du narrateur, quoi qu'on veuille, et je trouve pas que le personnage justement donne cette idée-là, donne cette caricature. J'ai trouvé qu'il y avait donc il y a cette volonté d'aller un peu dans la tête de Proust et d'aller chercher effectivement ce qui correspond à une époque, c'est ce qu'il avait du mal sans doute à assumer, donc ça on peut trouver ça un peu violent. Je trouve qu'il y a aussi une recherche qui est intéressante dans le spectacle, qui est cette image de la décadence, de la fin d'un monde. Bon, ça déjà été dit sur Proust, mais ce qu'il arrive à en faire, c'est-à-dire le tirer vers le monde d'aujourd'hui, représenter une espèce d'Europe enfin à bout de souffle, la fin d'un monde, et en même temps, on est cette résonance de l'antisémitisme et de l'homophobie, on l'a dans la Pologne d'aujourd'hui, on a dans une Europe puritaine. Donc je trouve que moi
ça s'appelle les Français quand même.
Oui, alors il part d'un texte effectivement les Français pour aller vers l'Europe, puisqu'on a ce grand monologue à un moment donné sur de Pessoa, je crois, sur l'Europe. Donc je pense qu'il y a un clin d'œil et qui peut être irrévérencieux. Moi, qui m'a pas trop gêné. Alors là où je suis pas d'accord non plus, c'est que moi j'ai parfois du mal. Je trouve parfois dans les spectacles de Warlikowski, je trouve très fort la scénographie, et parfois je trouve il veut pas faire de belles images. Et là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait dans les éclairages, dans la fluidité dans le rythme, et même dans les vidéos. Bon, celle, je comprends, sur les insectes, etc. Mais il y a quand même d'assez belles images, je trouve, quand il représente la dimension art qui est très présente chez Proust, puisque on a dans La Recherche du temps perdu cette ode à l'art, et Walikowski arrive à le faire. Et pour finir, bon, on va en discuter ensuite, mais mon propos, j'ai été assez ému, non pas par Phèdre à la fin, que j'ai trouvé beau, mais j'ai été assez ému par la représentation, justement, de Proust à la fin vieilli, où là, on retrouve un peu le temps retrouvé, parce que là, c'est beaucoup plus calme. Il y a cette tribu avec les cheveux blanchis, et là, on voit le personnage témoin, observateur. Il y a une espèce de plus de douceur à la fin, et on voit l'écrivain que va devenir Proust. Donc, curieusement, en ayant suivi d'ailleurs plus ou moins, parce que pas complètement, les volumes de La Recherche du temps perdu, à la fin, il se fait quand même un peu happer par Proust. Et entre ce grand écart qu'il fait, moi, ça m'a un peu déstabilisé, ça m'a plu.
Bon, je trouve qu'il y a quand même beaucoup à dire sur ce spectacle. Alors, je ne suis pas sûr que Fabienne Pascoe viendra avec moi, mais moi j'ai envie d'y retourner, ce qui est quand même plutôt bon signe. Je trouve que c'est très riche. J'ai pas du tout fini de. D'abord, j'ai pas tout vu, tout entendu. Que ce soit des représentations, même courtes, mais encore plus quand elles sont longues, y a tellement d'informations qui nous arrivent que c'est un peu complexe. Évidemment, qu'il s'agit pas d'une adaptation classique. Hein. Si les gens attendent une adaptation de La Recherche du temps perdu, il faut voir le téléfilm de Nina Combanez. Mais on se doutait que Walikowski ne ferait pas quelque chose de classique. Et puis il y a toujours ces ajouts maintenant qu'il fait depuis. Ça dure depuis Apollonia. On y est habitué. J'imagine qu'à un moment, c'était un texte de Coetzee, parce qu'on parle de l'Australie.
Donc, Célan aussi.
Il y a Célan, il y a Pessoa, Racine donc. Mais je crois que, comme il le fait depuis quelque temps, c'est un autoportrait. Et que, en fait, Walikowski a prélevé chez Proust, effectivement, les thématiques qui l'intéressent, l'antisémitisme qui est présent dans le texte.
Mais enfin, qu'un Polonais vienne nous donner des leçons d'antisémitisme.
Mais qui vous parle de leçons?
Il appelle la pièce Les Français, et il montre ces fameux Français comme des antisémites et des homophobes. Il faut quand même pas pousser non plus.
Bon, moi j'ai...
Franchement, c'est une histoire de cul antisémite, La Recherche du temps perdu. C'est sympathique, mais qui lise un peu, qui travaille un peu plus. Alors si c'est un autoportrait de Warlikowski qu'on va voir, moi ça m'intéresse pas, un autoportrait de Warlikowski, bon, personnellement.
Les artistes font toujours des autoportraits.
Oui, mais en 4h30, qui s'appuie pas sur Proust. Il a rien compris à Proust. Le problème, ce qui est passionnant, c'est le temps, une réflexion sur le temps. Là, je vous dis, c'est des histoires d'aventure qui se multiplient plus ou moins glauques. Il n'y a pas de pensée.
J'avais envie de renverser les rôles, parce que si je tenais ce genre de propos, vous me diriez, mais vous êtes un ayatollah de Proust, Arnaud Laporte, quand je peux le faire
ça
pour Marguerite Duras.
Sur Proust.
Alors, ça, c'est une chose, mais vous dites qu'il n'est pas bien travaillé son Proust. J'en suis pas persuadé, je ne suis pas dans les coulisses, je ne sais pas ce qui se passe. Mais...
Déjà, dire que les Guermantes étaient tous antisémites, c'est faux.
Bon. On va se reporter.
Non, mais
bon,
encore une fois,
je touche pas à mon Proust, on entend chez Fabienne Pascoe. Moi,
je crois
qu'il le touche, qu'il le bouscule, qu'il
l'emprunte.
Oui, parce qu'il le prélève
et
qu'il
réduit là.
Il met des choses. Non, il le réduit pas. Il met des choses sous la loupe. Alors effectivement, du coup, ça prend une place qui n'est pas celle, effectivement, dans le cul et l'antisémitisme. Alors vous êtes loin de votre micro, du coup, comme vous êtes agacé, Fabienne.
Le cul et l'antisémitisme, oui.
Mais moi, je crois que
c'est de l'anecdote.
Non, ni l'un ni l'autre ne sont de l'anecdote.
Dans Proust, si.
Non, je crois. Enfin bon, bref. On peut faire un débat d'exégèse de Proust, mais. Pour avancer un tout petit peu sur le propos quand même. Effectivement, donc, il choisit des thématiques qui l'intéressent lui, il met des loupes dessus, et donc ça, il ressort ça, et donc il dit c'est pas que ça, Proust. Alors évidemment que c'est pas que ça, il y a 3000 pages. L'adaptation qui en est proposée ici tient sans doute en 50 ou 60 pages. Enfin, ça, c'est le jeu aussi du théâtre. Mais justement, il le fait aussi en prenant son temps. C'est-à-dire que non seulement c'est long, Fabienne, mais il prend son temps. Et moi, j'ai aimé ça, j'ai aimé qu'il y ait du temps, de musique, alors qu'elle soit chantée ou qu'elle soit simplement instrumentale, des moments purement visuels. Alors sur les vidéos, il y a une chose qui m'a étonné, c'est que sur les couples qui s'embrassent, je n'ai pas vu de couple 100% féminin. qui est quand même un sujet qui est dans la recherche pourtant.
C'est vrai.
Donc là, c'est quand même vrai. Un manque qui m'a semblé un peu curieux.
Une misogynie, peut-être.
Alors ça, j'étais sûr que ça allait venir. mais j'avais fait un pari.
Donc, voilà, je vais récupérer. Je voulais savoir si vous l'aviez repéré aussi.
Non, j'attendais que vous le disiez. Mais parce que moi, je ne pense pas. Je pense que ce sont les hommes qui sont montrés comme des êtres absolument misérables, vils, décadents, et que les femmes sont magnifiés, mais s'en tirent pas beaucoup mieux parce qu'ils sont tous au bord du gouffre. Enfin, c'est, je pense que le bon titre qui vous aurait sans doute moins choqué, c'est effectivement les Européens. Je crois qu'on est, ils représentent une fin d'époque, une décadence. Voilà, qui doit faire écho pour lui à une actualité alors qui nous concerne, là, pour le coup, tous, non ?
Mais il y a une résurrection par l'art, quand même, dans Le Temps retrouvé.
Bah, je trouve qu'on le voit sur scène, moi, parce que les séquences sur l'art, elles sont quand même... Il y a la séance, quand même, du violoncelle, qui est un beau moment. Y a, le Phèdre est un beau moment, aussi.
Absolument.
Même s'il est un peu décalé. Je trouve que
vous
ne
l'avez pas trouvé un peu massacré, ce Phèdre-là ?
Il est rugi, mais j'ai pas trouvé massacré, non. J'ai trouvé qu'il y avait, mais simplement le personnage, évidemment, de Rachel, qui est l'actrice et qui porte.
Le massacre, on l'entend avant avec Sarah Bernard sur la bande son, hein, que vous avez sans doute identifié.
Elle est dans Proust, hein, donc.
Oui, mais on l'entend. Je préfère la version polonaise, mais je trouve que. Moi, je rejoins Philippe sur un esprit de la recherche carré, mais au sens ou un parfum au sens de l'extrait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de travail, d'alchimie comme ça, qui fait qu'il y a l'essence de la recherche sur certains aspects. Il s'agit, personne n'aurait la prétention de faire un spectacle qui donnerait toute l'étendue de ce que te propose Proust en 3000 pages. Je crois que ce serait une bêtise, enfin ce serait de toute façon impossible, mais la société que Proust décrit, c'est quand même celle de la fin d'un monde, c'est un monde qui vit encore dans l'illusion de sa grandeur, mais qui est quand même déjà en train d'être dépassé. Donc oui, les échos, moi je les ai ressentis comme Philippe, et ces moments de sublimation, je les ai vécus aussi dans la salle.
Moi, je trouve que peut-être Varlikovski fait trop de choses et qu'il accumule les mises en scène sans avoir le temps. Il nous met quand même à chaque fois à peu près le même dispositif, à peu près les mêmes éclairages, à peu près les mêmes costumes et la même façon de diriger ses acteurs qui s'en sortent parce qu'ils sont très bons. Mais il s'implique pas assez, quoi. Il a un esprit, il a une machine, il a une manière de faire. Sa mise en scène est bourrée de trucs et bourrée de tics. Et moi, je les vois à longueur de temps.
Oui, mais est-ce que c'est pas ce qui signe certains auteurs? On pourrait dire que d'Olivier Py à Claude Régis, il y a des systèmes qui se mettent en place. Je parle de metteurs en scène extrêmement différents pour l'exemple.
Oui, mais ceux-là, malgré leurs tics, parfois, je suis complètement d'accord avec vous, nous font creuser la matière à laquelle ils s'intéressent. Et moi, je...
Vous trouvez que c'est resté à la surface.
Voilà.
Nous avons eu la chance de plonger un peu, Philippe.
Non, il prend des libertés, mais encore une fois, moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est de voir...
C'est pas ça qui me choque. Hein.
Non, je me doute bien. Mais je ne dirais pas vous accuser de ça, Fabienne. Non, mais ce que j'ai... J'ai aimé cette façon de retomber quand même sur les pieds, j'allais dire, de Proust,
ouais.
Sur les personnages en tout cas, parce que les personnages, ils sont attachants. Il n'y a pas que leur aspect antisémite. Ils ne le sont d'ailleurs pas tous. Forcément, il y a Swann, il y a tout ça. Et je pense que même dans les rapports, il y a dans les rapports amoureux, même le cul, de la façon dont c'est représenté, il y a ce performer que je trouve pas mal, moi, le danseur avec son masque. Il y a une partie dansée qui est quand même assez qui donne une certaine élégance à ces scènes. On les voit jamais nues d'ailleurs complètement.
Les chansons de la ballerine,
qui est plutôt bien. J'ai trouvé qu'il y avait une unité, une fluidité. Ce qui est marrant, moi, c'est qu'en sortant, je me suis dit, tiens, finalement, Proust a été très respecté. Et c'est après que je me suis dit, non, finalement, il a tordu dans le sens qu'il va, mais je trouve qu'il y a une homogénéité dans ce spectacle. Et moi, je encore une fois, dans la scénographie qu'on connaît, mais alors il faut dire, il y a cette espèce de grand bar au fond
des
airs.
Dans des boîtes.
Il y a un joli petit train salon sur roulette, mais les éclairages, la façon dont je trouve qu'il y a une espèce de grâce dans ce spectacle, moi, que j'ai ressenti. Voilà.
Mais alors le danseur noir, c'est quand même le pompon.
Ah.
Parce que faire jouer, pour une fois qu'il y a un noir dans un spectacle, il le fait jouer par un blanc avec un costume, avec un masque de noir. Ah, ça, c'est quand même fou. Pour quelqu'un qui est hors de tout racisme.
Mmh. Je pense que c'est une référence au ménestrel et à toute cette dimension de l'époque où on faisait.
Il n'y a pas de noir en Pologne.
C'était pour, je pense, justement, encore une fois, montrer. montrer le public blanc faisant se moquant un petit peu des...
Oui, c'est ça. Oui. Bah, lui-même aurait pu prendre un acteur noir. Ça aurait été un moyen de faire jouer la diversité.
Oui,
sauf qu'il... Polonais blond.
Il lui met les mains blanches. Donc, on doit voir que c'est un blanc déguisé en noir. Donc, moi, je pense que c'est volontaire.
Bah oui, mais bon, on va envoyer Fabien Benpasco régler le problème des Oscars. Ça va l'occuper un petit moment pour la diversité. On en reparlera demain soir dans la revue de presse d'Antoine Guillot, je crois, pour la question cinéma. Bon, on n'a pas vu le même spectacle, mais c'est ça qui est bien.
On était côte à côte.
Ça, vraiment.
Mais j'étais aussi, juste pour revenir là-dessus, très ému par le dernier tableau avec cette vieillesse comme ça et cette décrépitude qui est souvent très ratée au théâtre. Bon, Fabienne, j'imagine que pour vous c'était raté. Pour moi, c'était très émouvant ce moment-là aussi. Bon, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On est là pour dire les uns et les autres ce que nous avons ressenti. Philippe Chevillier et moi, nous sommes contents d'être allés à Clermont-Ferrand. Vous aussi, Fabienne.
Oui, moi aussi, je suis ravie.
On a vu le projet de la future scène nationale qu'on attend la poussée. Nous avons vu des très beaux plans d'architectes.
Non, puis c'est formidable qu'une scène celle-là puisse coproduire Varlikovski, quand même, puisse prendre ce type de risque. Et la salle était pleine.
Et a
ovationné le spectacle.
Absolument. Voilà. C'est très bien que ce soit vous qui le disiez. Les Français. Et d'après,
non
mais
je sais, juste.
C'est vert mais juste. La recherche du temps perdu de Marcel Proust, donc c'est une mise en scène de Christophe Varlikovski, actuellement en tournée. Les prochaines dates, c'est à la fin de la semaine, 31 janvier à la Comédie de Reims. Puis il y aura Genève, Tarbes, Paris et Mulhouse. Notez d'ailleurs qu'à la Comédie de Clermont-Ferrand, nous avons découvert les Français. Christophe Varlikovski reviendra, ce sera les seuls. Autre date en France, présentée Phèdre avec Isabelle Huppert, ce sera à l'Odéon, et puis seulement à Clermont-Ferrand du 27 au 29 mai.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Avant de parler de Bettencourt Boulevard de Michel Vinavert, mise en scène par Christian Schiaretti, nous retrouverons l'invité de la dispute, la galeriste Chantal Crozel. Pour l'heure, la galerie de portraits de faits d'actualité par Antoine Guillot avec la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Attentat oblige, la fin d'année 2015 a été noire pour le théâtre privé parisien, rapporte Martine Robert dans Les Échos. Il a subi une baisse de 30% du nombre de ses spectateurs et de 28% de ses recettes entre le 13 novembre et la fin de l'année par rapport aux 7 dernières semaines de 2014, a précisé mardi Bernard Murat, le président du syndicat national du théâtre privé et directeur du théâtre Édouard VII, à l'occasion d'une conférence de presse. Cette forte chute masque des situations contrastées, quelques succès disposaient de suffisamment de réservations pour être très peu ou pas affectés, quand d'autres sont plus durablement atteints, a-t-il ajouté. De plus en plus, il faut des têtes d'affiche et celles-ci ne sont pas si nombreuses, a renchéri Marie-France Mignal à la tête du Théâtre Saint-Georges et de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Les théâtres souffrent aussi de l'annulation de spectacles jeunes publics et de la baisse des locations de salles pour des événements privés, d'où l'impossibilité de prévoir l'échéance d'un retour à la normale, a observé Bernard Murat, qui réclame une aide globale au théâtre privé auprès du ministère de la Culture et à la ville de Paris. Pour encaisser les bides, les 55 scènes privées parisiennes peuvent compter depuis 1964 sur un fonds de soutien alimenté par des subventions de l'État et de la ville, ainsi que par une taxe sur la billetterie des pièces à succès. Or, ce fonds est menacé d'asphyxie, pris en étau entre les déficits croissants à couvrir et les recettes issues de la taxe en baisse. Selon Bernard Murat, le fonds d'urgence mis en place par le ministère de la Culture et doté de 4,5 millions d'euros ne suffira pas pour faire face à la situation actuelle. Une question se pose, rajoute Armel Héliot dans le Figaro, pourquoi le fonds de soutien aiderait-il des gens d'argent qui n'ont aucune vocation à défendre les auteurs, les acteurs, le monde du théâtre? Le Comédia est sorti du système, mais les autres? Or cette question, la critique théâtrale du Figaro l'a posée dans un papier publié le 12 novembre, soit la veille des attentats, un article qui commençait ainsi. Il y a des années que le théâtre privé parisien n'avait connu début de saison aussi mauvais. Les succès se comptent sur les doigts d'une main, soit par ordre d'entrée en scène de tout début septembre à octobre, Momo au Théâtre de Paris, Le Mensonge à Édouard VII, Fleur de Cactus à Antoine, Montée en puissance, Représailles à la Michaudière, La Dame Blanche au Palais Royal et Avanti au Bouffe Parisien. Pourquoi, dès avant les attentats, le théâtre privé faisait-il une mauvaise saison, se demandait donc l'Express du 9 décembre, parce que le nombre de spectacles ne cesse d'augmenter, contrairement au public, répondait l'article. Si les attentats de Paris ont provoqué une chute de fréquentation de 35% la semaine qui suivit le 13 novembre, ils n'expliquent pas à eux seuls la mauvaise saison qu'accuse actuellement le théâtre privé depuis la rentrée. Au mois d'octobre, dans les 57 théâtres adhérents à l'Association pour le soutien du théâtre privé, 15 spectacles ne passaient pas la barre des 20% de fréquentation, soit trois fois plus que l'année dernière. Comme en 2014, 5 pièces tirent leur épingle du jeu, constate Antoine Mazure, le délégué général de l'ASTP, mais le nombre de spectacles qui s'effondrent explosent, même les têtes d'affiche ne font plus recette. Le Roi Lear, au Théâtre de la Madeleine avec Michel Aumont, enregistre seulement 40% de fréquentation. Irma la Douce à la Porte Saint-Martin avec Laurent Deutsch ne dépasse pas les 60%. La faute à des erreurs de programmation? Non, la tendance est trop profonde, le pouvoir d'achat ne cesse de baisser, tandis que l'offre théâtrale est de plus en plus importante, explique-t-il. À Paris, le nombre de représentations est passé de 8249 à 8828 en un an. La plupart des directeurs de théâtre n'ont d'autre choix que de proposer 3 spectacles par soir pour entrer dans leurs frais, quitte à vider leurs salles en dispersant le public. Une spirale infernale. Dans ce marasme, il est un théâtre qui plus est public, dont la fréquentation dépasse les attentes. C'est le théâtre Sénart qui a remplacé les 2 sites originels de la scène nationale, la Coupole et la Rotonde. Le théâtre Sénart, c'est comme si les Bouffes du Nord et le Paris Villette avaient fusionné pour devenir le théâtre de la ville, commande Jean-Michel Puif, qui dirige la scène nationale depuis 2001. Et pourtant, rappelle Clarisse Fabre dans Le Monde, l'immense vaisseau a connu un bien triste baptême. Après plusieurs contretemps, la date d'inauguration avait été fixée au 13 novembre 2015. La soirée commençait bien. 2 artistes associés au théâtre Sénart, le metteur en scène Patrick Pinault et le chorégraphe Sylvain Groux, ancien du ballet Preljocage, avaient préparé une surprise. Ils ont lancé la bande-son de l'abécédaire de Gilles Deleuze, qui se résume à la voix chevrotante du philosophe, et ont dansé sur la lettre R de résister. En quoi créer, c'est résister, c'est plus net pour les arts, commence Deleuze. Les artistes ont vraiment la force d'exiger leur rythme à eux. Personne n'a le droit de bousculer un artiste. Les attaques terroristes à Paris ont coupé court à la fête et les mots de Deleuze ont pris tout leur sens. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, s'est éclipsée et les invités ont mis au placard le sac en coton qui leur avait été offert. On ne peut quand même pas se promener avec une telle inscription en bandoulière. Théâtre Sénart, 13 novembre 2015, j'y étais. Depuis, un miracle s'est-il produit? Pour l'instant, le public afflue. Dès la réouverture des portes, au lendemain des attentats, les spectateurs assistaient les 17 et 18 novembre à la pièce de la metteuse en scène Pauline Bureau, Sirène. Il manquait tout de même à l'appel une centaine de scolaires. Le 29 novembre 2015, le premier opéra accueilli par le Théâtre Sénart affiché complet, c'était les Noces du Figaro, avec une mise en scène de Galine Stoeff. Aujourd'hui, l'équipe croise les doigts, alors que l'objectif du nouvel outil est d'attirer 45 000 spectateurs à l'horizon 2018. Avec plus de 6 000 abonnés, les 40 000 entrées payantes ont déjà été dépassées pour l'année 2016. Et on dira après que le théâtre public doit s'inspirer des méthodes du privé.
Bon, longue vie au théâtre de Sénart. On avait appelé Jean-Marie Puif quelques jours avant cette inauguration. Vous êtes allé, Fabienne Pascot, à Sénart?
Non, je ne suis pas allé à Sénart.
Philippe Chevillet?
Pas encore.
Bon, il va falloir nous rattraper sur cette question-là. Puis, concernant le privé, ça me fait penser à ce qui se passait il y a quelques années dans le monde de l'édition. On faisait toujours plus de livres, qu'on vendait toujours moins. Et ils étaient toujours plus mauvais aussi. La question de la qualité, si on débourse le prix plein d'un théâtre privé et qu'on passe une mauvaise soirée, on a moins envie d'y retourner, Fabienne.
Oui, tout à fait. Et puis l'exemple de Sénart, là, oui. J'écoutais Antoine, prouve que quand même le public n'est pas bête. C'est que remplir les salles avec Deleuze, chapeau, c'est pas évident. Mais bon, je pense que quand on fait l'effort d'aller au théâtre, on a envie aussi de s'enrichir, de rire, mais aussi de s'enrichir l'esprit, d'avoir un plaisir intelligent.
Ouais, on est d'accord, Philippe Chevillet.
Ouais, ce qui est difficile, c'est qu'on a vu des théâtres privés, comme le Théâtre de l'Œuvre, essayer de faire des programmations vraiment intéressantes et qu'ils ont quand même du mal à remplir parce que après c'est très difficile de fidéliser un public qui a pas forcément
changer l'image d'un théâtre.
Bon, le théâtre public, c'est plus... et puis les coûts ne sont pas les mêmes, le prix n'est pas le même pour le public, donc globalement, on peut se dire ça, qu'il y a beaucoup de choses mauvaises et qu'après tout, et que la politique de prendre forcément des vedettes pour faire des pièces qui sont pas terribles, ça marchera qu'un temps, mais il y a aussi des théâtres privés qui font des efforts et qui ne sont pas toujours récompensés.
Mais le théâtre public, dans les spectacles qui marchent, ils ont continué de marcher. C'était le cas, on avait parlé de Saïra, de Joël Pomera, qui a continué, qui a commencé avant les attentats et qui s'est poursuivi devant les salles combles. Qu'on aime ou pas, Thomas Joly, c'est très rempli. Enfin voilà, les spectateurs
répondent
présents.
Mais les plateaux de Thomas Joly ou Joël Pomera ne coûtent pas aussi cher, même que les plateaux du théâtre de l'œuvre dont vous parliez.
Même avec beaucoup de comédiens, bien sûr.
Pourtant, il y a beaucoup de comédiens.
Mais des comédiens qui n'ont pas des cachets énormes, alors que dès qu'on essaye dans le théâtre privé de faire venir des vedettes, ça coûte cher. Donc il faut amortir et les jauges ne sont pas forcément grandes. Vous citiez le théâtre de l'œuvre, il y a peu de place.
Oui, peu de place, absolument. Voilà. Bon.
Je crois qu'il est bien rempli avec Dominique Valadier.
Ah oui, bah alors redisons-le, hein, qui a peur de Virginia Woolf, un spectacle absolument extraordinaire, une actrice hors norme, enfin le quatuor est magnifique. Et Alain Françon a fait un très beau travail, d'accord Fabienne Pascaud ?
Oui, je suis d'accord.
Bon, très bien.
La pièce est un peu vieillie, mais bon.
Oh bon, c'est pas votre soirée. Pour remplir un théâtre public, quand même une petite annonce pour dire que samedi, à 14h, à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, dans la grande salle du 6e arrondissement, j'animerai une nouvelle session des scènes imaginaires. Vous voyez, Fabienne Pascaud, j'ai appris, je fais ma pub maintenant.
Oui, c'est
celle de France
Culture
parce que je ne l'avais pas fait précédemment. Et Angelica Lidl, cette saison, Romeo Castellucci, cette fois, ce sera Richard Peduzzi, le scénographe, qui présentera son imaginaire autour de textes choisis par lui et lus par Clotilde M., Michel Esco, Jérôme Deschamps, Vincent Huguet, Olivier Rollin. Il y aura aussi de la musique, Rosemary Stanley sera là, ainsi que Judith Fa et Alphonse Semain. On peut réserver ses places sur le site de l'Odéon ou sur celui de France Culture, qui a fait peau neuve, un site de France Culture aujourd'hui. Il est très beau, ce petit bébé, donc félicitations à ses concepteurs. La scène imaginaire de Richard Peduzzi, samedi à 14h à l'Odéon, et prochainement, bien sûr, sur l'antenne de France Culture. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons à Bettencourt Boulevard de Michel Vinavert. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute toute cette semaine, c'est la galeriste Chantal Crozel, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Chantal Crozel, il n'était pas besoin d'avoir de raison de vous inviter, parce que vous faites partie des sommaires régulièrement de notre émission avec votre galerie qui a fêté ses 35 ans d'existence. Donc voilà, c'est une belle occasion de vous souhaiter un bel anniversaire et de continuer encore longtemps. Et on en parlera évidemment plus spécifiquement mercredi quand on parlera d'art plastique ensemble de l'actualité de votre galerie. Mais on commence logiquement par le spectacle vivant dans notre émission le lundi soir. Alors je sais que votre emploi du temps est bien rempli, comme tous, avec des soirées parfois prises. Mais qu'est-ce qui vous motive, vous, Chantal Crozel, pour aller dans une salle de spectacle ?
Mais ce qui me motive, c'est la même chose que pour ce que je recherche auprès des artistes que j'aime et que je représente, comme pour ce que je vais voir au cinéma, ou comme ce que j'écoute, comme musique, ou comme texte, ou ce que je lis, ou ce que je cherche au cours de mes voyages. C'est une interprétation, une image de la réalité. Je me concentre sur la réalité et sur le fait que, sur l'identité de l'individu, individu seul ou dans une société, et de la conscience que peut avoir chaque individu de son existence. Donc, je considère que chaque individu est un spectacle vivant, à moins qu'il ne soit couché par terre, ce qui veut dire qu'il n'est plus vivant.
Quel spectacle, justement, ont pu, au cours de votre vie, peut-être dans un passé récent, correspondre aux attentes que vous pouvez avoir envers, justement, ce qui se passe, pour le coup, dans le champ du spectacle vivant, alors que ce soit danse, théâtre, ou d'autres formes encore?
Mais pour commencer par le théâtre, d'une certaine façon, c'est parmi les pièces que j'ai vues au cours des deux dernières années, je veux dire, et qui m'ont énormément apporté, c'est Maladie de la mort de Marguerite Duras, que je trouve d'un érotisme et d'une vérité absolument saisissante, d'une ouverture, d'une confiance dans le public incroyable, et l'exposition d'une fragilité qui devient une véritable force et qui permet d'affronter des choses très dures. Une autre pièce d'un auteur que j'aime beaucoup est une pièce qui est jouée en ce moment au Théâtre de la Colline, c'est Bettencourt Boulevard, ou une histoire de France de Michel Vinaver, qui est un vieil ami dont j'aime beaucoup les écrits et les pièces de théâtre. Je n'ai pas encore vu celle-ci, elle dure jusqu'au 20 février et j'ai absolument l'intention d'aller la voir.
L'écriture, alors pour le coup, du réel, hein, Michel Vinaver, on le sait, lui-même patron d'entreprise, patron de Gillette, pour
le dire. Gillette. Je l'ai connu à l'époque où il était patron de Gillette.
Mais qui avait cette autre vie, celle Exactement. D'auteur dramatique, qui a été un des premiers à s'intéresser au monde de l'entreprise, mais représenté sur des plateaux de théâtre. Ça, c'est, ça fait partie tout à fait de la définition que vous donniez de regarder le réel,
Jean-Jacques Absolument. Cogène. Tout à fait, et de partager ce réel avec des interprétations personnelles qui servent, qui sont utiles au public et qui donnent un certain regard sur notre société qui demande réflexion et qui doit être salutaire.
Et je sais qu'il y a un autre artiste, alors qui est dans différents champs, mais qui est aussi dans le monde du spectacle vivant, comme dans le monde des arts plastiques, c'est Jérôme Bell,
pour
qui
Jérôme
vous avez
Bell,
évidemment une attention particulière.
J'adore, qui est un grand ami aussi, et dont j'ai beaucoup, beaucoup aimé la pièce, la performance, entre performance et pièce de théâtre, puisque ça se passe sur une scène, de Disabled, avec les...
Theater.
Oui, le Disabled Theater avec des handicapés mentaux, que j'ai un par un trouvé d'un courage et d'une beauté saisissante. Pas une beauté classique, évidemment, mais une beauté qui transparaissait par les yeux, par les gestes, par les corps, et qui ne répondent à aucun canon esthétique promu dans le monde en général, mais qui montrait à quel point un individu, quand il prend conscience de son existence, de ses handicaps et de ses aspirations à les dépasser, peut totalement devenir un exemple pour des gens normaux qui sont dans leur routine, dans leur case. Et j'ai trouvé ça à la fois émouvant, mais énormément beau. Et j'ai dit à Jérôme que si un jour il a envie de faire quelque chose avec des artistes ou avec des artistes qui s'expriment par le son, dont nous avons plusieurs représentés dans la galerie, j'en serais ravie.
Le message est passé.
Voilà.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant avec une pièce dont on a beaucoup entendu parler avant même qu'elle ne se joue, Bettencourt Boulevard. Il est vrai que son auteur Michel Vinaver est un de nos plus grands dramaturges, ainsi que le plus âgé peut-être, 88 ans. Une nouvelle pièce de lui, c'est donc évidemment un événement. Il en a fait lui-même une lecture remarquée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Et puis le patron du TNP, Christian Schiaretti, qui avait déjà monté deux textes de l'auteur, a créé cette pièce à Villeurbanne le 19 novembre dernier. Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, dont le texte apparu à l'Arche Éditeur, retrace la fameuse affaire, toujours en cours. Il fait défiler sur le plateau autour de la milliardaire les figures désormais bien connues que sont François-Marie Bagné, Rick Woerth, Patrice de Maistre, mais aussi le majordome, la comptable et puis Nicolas Sarkozy, entre autres. Mais les premiers à entrer en scène sont les ancêtres de la dynastie, Robert Meyers, rabbin, qui mourra à Auschwitz, et Eugène Schueller, chimiste, fondateur de L'Oréal, sympathisant du national-socialisme.
L'île d'Arros, maman ne m'y a jamais invité, elle ne m'en a même jamais parlé. Voulez-vous bien me dire, Claire, quand et comment elle a acheté cette île?
Je n'en sais rien.
Vous, sa comptable!
C'est beau!
Et regardez celle-ci. En la saisissant dans l'objectif, il y a, je pensais à vous.
C'est une femme de bas étage!
François-Marie Bagné. Au premier contact, je lui trouve quelque chose de séduisant.
Je la veux, cette photo! Absolument! André ne comprend pas que vos photos que j'achète sont de celles qui donnent à désespérer de l'humanité.
Françoise, il n'y a pas plus grande injustice. Je suis au fond du puits où les frères Friedman m'ont jeté. Ils agissent mus par une haine ancestrale. Je ne voulais pas que tu l'apprennes par d'autres que par moi. Je quitte la vice-présidence de L'Oréal.
Vous disiez, Liliane Alinzek, que vous aviez envie de lui faire...
un cadeau. Oui, oui. Je pense à 100 millions d'euros. Vous acceptez ? J'en suis heureuse. Défiscalisé, naturellement.
Il ne faut vraiment pas que ça s'ébruite.
Reçu d'elle, non. Jamais rien. Ni d'elle, ni d'André. À part les petits gestes habituels.
Mais il faut qu'on ne sache pas que nous savions. Au décès de Liliane, vous aurez un procès pour captation d'héritage.
Encore un teaser, une bande-annonce, et on vient d'entendre à l'instant le formidable Jérôme Deschamps. Mais je n'anticipe pas, Philippe Chevillier sur Bettencourt Boulevard ou Une histoire de France.
Eh bien alors, c'est un spectacle, c'est un peu un ovni, parce que ça mélange pas mal de choses. Alors je suis sûr d'ailleurs qu'il y a des gens qui arrivent en se disant « on va avoir la solution de tout ». Non, il faut se rappeler que bon bah c'est pas fini, hein, l'affaire elle est pas... c'est encore un work in progress, si je puis dire. Donc c'est pas un docu-fiction, même si ça suit vraiment l'histoire. C'est pas une, non plus une tragédie moderne, c'est pas vraiment une farce politique, mais c'est un petit peu tout ça à la fois. Et surtout, il tire un peu l'actualité vers autre chose, c'est-à-dire ce que vous disiez au départ, cette schizophrénie, une histoire française, des racines qui sont à la fois des racines de la cagoule et puis des racines juives, donc des personnages qui ont à chaque fois se reflété dans cette histoire. D'une part, donc, et surtout, on a la descendante Françoise Bettencourt qui s'interroge beaucoup sur l'identité de la famille, c'est le personnage qui va plus porter ce propos-là. Alors, sur la forme, donc, c'est 30 scènes qui se succèdent, où il n'y a pas vraiment d'entrée et de sortie, les personnages qui apparaissent comme ça. Donc, je trouve que Christian Scaretti, qui est un très bon lecteur de texte, a su bien s'en sortir. Il a plutôt l'habitude de faire des mises en scène quand même assez statiques. Donc là, il nous fait quelque chose de statique, mais qui néanmoins est fluide, dans un beau décor. Le décor est quand même assez étonnant, puisque ça représente des panneaux qui... C'est un tableau de Mondrian. Ça représente aussi un peu le packaging de certains produits de L'Oréal. Donc c'est assez amusant comme clin d'œil. Et on a une troupe de comédiens qui sont dans l'ensemble assez affûtés et qui portent ce texte qui nous emmène encore une fois dans une réflexion sur le fol argent, parce que c'est comme ça, quand même ça qui est au centre de tout, et en même temps sur des racines, sur une France qui doit assumer une histoire ambiguë, et sur des personnages en manque d'amour aussi, un peu tout ça. Et je trouve qu'en deux heures, sur le mode choral, on arrive bien à ressentir le propos de Vinavert, et que c'est un spectacle assez réussi, étrange mais réussi.
Fabienne Pascot sur Les Français.
Ah oui, et ça pourrait s'appeler Les Français, par exemple.
Ou Une histoire de France.
Moi, j'ai trouvé que c'était remarquable ce travail de Scaretti et surtout de Vinavert, qui ne juge personne, mais qui, en une trentaine de scènes, arrive à raconter l'histoire de nos aïeux, pour le moins, ou antisémites. Et là, il y a une part juive aussi, puisqu'il y a un des ancêtres des petits Bettencourt qui est mort dans un camp, dont le grand-père était rabbin. Et donc, tout va se raconter au fil des compromissions, toute classe confondue, de cette grande bourgeoisie d'argent, confrontée à ses démons, confrontée au manque d'amour qu'elle peut témoigner à sa propre famille, confrontée à des amis intéressés, confrontée à des politiques véreux, et tout ça à travers d'un banal fait divers, hein, puisque finalement l'amour de Liliane Bettencourt pour François-Marie Bagné, c'est son droit le plus strict d'aimer qui elle veut et de lui donner tout l'argent qu'elle veut. Cette pauvre femme, qu'elle en profite.
Oui, cet argent.
Exactement. À partir de ce fait divers, eh bien, c'est une histoire mythologique soudain, et en tout cas une histoire de France que Vinavert nous raconte. Magistralement interprétée par Francine Berger, que j'ai trouvé superbe, elle prend tout à coup Liliane Bettencourt face à sa fille, des allures de Clytemnestre, des allures de Médée. Enfin, on retrouve à travers d'une banale histoire de boulevard, et c'est pour ça que ça s'appelle Bettencourt Boulevard, toute la force des tragédies et en même temps des séries américaines. Parce que les 30 tableaux, comme ça, ça va vite, ça court, ça file. Il n'y a pas de ponctuation, comme on le sait dans l'écriture de Vinavert. C'est toujours des effets musicaux, des effets rythmiques dans les phrases, dans le verbe, dans le choix des mots. Et c'est formidable.
Bon, j'ai dû passer tout à fait à côté de ce spectacle.
Mais ça arrive à tout le monde.
Ah, bah, j'ai surtout attendu qu'il se termine.
Pourtant, 1h45.
2h. Vous voyez que votre montre est vraiment truquée. tout est posé depuis le début. Je trouve que la mécanique n'évolue pas du tout pendant la représentation. Alors, ce que vous dites là, c'est pour le coup, je me suis reporté cette fois, je l'ai pas fait pour les Français, mais là oui, sur la note d'intention. Le dramatique, hélas, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a surpris, qui tient, je crois, autant d'ailleurs à la mise en scène qu'au texte, c'est qu'il y a un air de Novarina dans cette pièce de Vinaver. Alors, non pas dans l'invention langagière, mais dans la structure, prolifération de personnages. Et c'est vrai qu'on a un chroniqueur qui aurait pu s'appeler l'ouvrier du drame. Hein, ça aurait fonctionné. Mais ce qui m'a déçu, mais Dieu sait que j'aime Michel Vinaver, qui est un grand auteur, c'est évident. Mais là, j'ai eu l'impression de voir juste un collage de documentation, et c'est tandis qu'on a un peu suivi l'affaire Bettencourt un peu d'intérêt, on retrouve les différentes séquences, en effet, comme vous le disiez, Philippe Chevillier, mais sans que ça décolle jamais. Alors vous dites, il ne juge pas, moi je trouve qu'il n'y a pas de point de vue, que donc du coup tout ça reste terriblement plat. Alors seul Jérôme Deschamps, je le disais déjà tout à l'heure, qui interprète Patrice de Maistre, alors lui, il propose vraiment quelque chose, il propose une bouffonnerie, une drôlerie, enfin qu'il a vraiment en lui comme acteur, ça fait plaisir de le voir sur un plateau, et à chaque fois quand même qu'il apparaît en scène, toute la salle se réjouit, moi compris, parce qu'il est assez irrésistible. C'est vrai que Francine Berger, alors là, elle fait le travail avec le talent qu'on lui connaît, mais je trouve qu'elle n'a pas grand-chose à jouer, parce qu'encore une fois, je trouve que ça n'évolue pas, et alors, vous parlez de Clitemnestre, de Médée, etc.
Quand même.
Oui, d'accord, enfin bon. Oui, au tout début, d'ailleurs, elle a un premier blanc, enfin au sens vraiment d'une hésitation, un trouble, je me suis dit, bon, ça va creuser là, mais ça s'arrête assez vite, elle le rejouera un peu. Mais le grand regret pour moi, vraiment, surtout après avoir lu les notes d'intention, c'est le rôle extrêmement minime joué par la fille de Liliane Bettencourt, Françoise Bettencourt-Smeyers, c'est Françoise Christine Gagneux qui ne démérite pas. Mais je trouve que c'est un personnage qui est beaucoup trop peu présent, alors que, effectivement, c'est un drame entre une fille et sa mère.
Oui, mais elle est juste mal aimée. Elle n'est pas, très présente non plus. La mère
quasiment.
L'exclut.
Ah, elle est inexistante sur le plateau.
Moi je trouve pas. Je trouve que justement, elle porte beaucoup le. On a l'impression que c'est le personnage pour lequel il y a le plus d'empathie, puisqu'elle porte cette référence au mythe, cette référence à la musique classique, qui est une des choses qu'il aime bien. Et moi, je la trouve présente. En revanche, où je suis d'accord, c'est que il y a tellement de personnages que, évidemment, surtout dans une durée de 1h45 ou de 2h. On ne peut pas trop creuser les personnages. Parfois, il y en a où je trouve que c'est un peu à côté. François-Marie Bagnier, Pardi des Flamands, je le trouve pas très, très fort. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, moi, c'est le traitement des politiques. Parce qu'avec les politiques, on peut pas aller trop loin, vu les jugements, etc. Et ce qui est assez amusant, c'est cette vision d'Eric Woerth qui est quand même extrêmement ironique, l'homme parfait, et qui est quand même assez bien traité. Et puis, le personnage de Nicolas Sarkozy, qui est un valet de comédie, et en plus pas le premier valet, parce qu'il passe que deux fois.
C'est pas d'une grande finesse, quand même.
Oui, mais c'est amusant de.
Ça fait rire.
Oui, et de contourner le problème du politique par là.
C'est les pièces d'un puzzle, et ça nous raconte. C'est à nous de voir, c'est à nous de rassembler, c'est à nous de nous amuser, c'est à nous de nous raconter notre histoire de France à travers ce qui nous est proposé. Et moi, ça me rend plus intelligente, ça m'éclaire.
Bah, vous n'avez pas besoin de ça, Fabienne.
Ah, si, alors que franchement, les partis pris appuyés d'Avarlikovski m'abêtissent.
Ouais.
Bon. Là, ça m'aère.
Par exemple, les petits fils qui dansent, c'est quand même inutile. L'effet choral à la fin est quand même assez raté.
Alors, c'est une pièce chorale, comme le disait Philippe.
Oui, mais à la fin, ils reprennent tous le texte en main, ils lisent ensemble, ils avancent vers le plateau. Mais juste avant, moi, il y a vraiment une séquence qui m'a vraiment embarrassé, c'est ces souvenirs entrecroisés, mêlés, découpés entre effectivement le grand-père rabbin et le grand-père de la cagoule. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça très lourd. Ça vous rend plus intelligente, vraiment. Non, parce qu'au ce moment-là, il est quand même.
Montrer ses origines, nos origines multiples et notre culpabilité, nos raisons d'être coupables, c'est jamais inutile. Alors là, franchement, c'est jamais inutile. L'antisémitisme traité comme ça, encore une fois, je veux pas faire de comparaison, mais je le trouve plus léger que l'antidréfusisme appuyé de
Marcel Proust.
Oui, de Varlikovski.
C'est dans le texte
de Proust, quand même, la comparaison. Deux spectacles qui sont très, très, très différents.
Oui, mais qui s'appellent Les Français. qui ont l'ambition de nous raconter. Je préfère la vision de Vinavert.
Une histoire de France, ça s'est sous-titré une histoire de France. Mais bon. Encore une fois, c'est un objet assez particulier, mais moi j'ai effectivement le même sentiment que Fabienne, c'est-à-dire que par petites touches, au premier degré, on ne sent pas forcément, mais quand on y repense, on se dit, tiens, il y a pas mal de choses qui sont passées, qui sont dites sur notre beau pays.
Bon, c'est comme je le disais, je suis passé à côté de ce spectacle, ça arrive, comme disait Fabienne Pascoe. Bettencourt Boulevard, une histoire de France de Michel Vinavert, une mise en scène de Christian Schiaretti, c'est jusqu'au 14 février à La Colline.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission avec un coup de fil passé à Argiro Ciotti, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu de vendredi soir, Antoine Guillot.
Oui, vous avez gagné des invitations valables jusqu'au 2 juillet pour accéder au Centre Pompidou-Metz. Je vous ai demandé quel était le nom de l'exposition inaugurale de ce centre en 2010. La réponse était chef-d'œuvre, point d'interrogation.
On reste dans les arts plastiques avec des invitations pour l'exposition Matotti Infini. Au fond, Hélène et Edouard Leclerc pour la culture à Landerneau jusqu'au 6 mars. Quelle est la question ?
En 2004, pour quel film collectif Lorenzo Matotti a-t-il réalisé les segments qui faisaient le lien entre les épisodes et qui en étaient les réalisateurs ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeur@franceculture.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello.
La Grèce est à l'honneur du festival Reims Scène d'Europe qui se déroulera du 28 janvier au 6 février. Ce soir, j'appelle la metteur en scène Argiro Ciotti qui présentera deux spectacles, Emata le mardi 2 février, et Domino le samedi 6 février. Avant de parler de ces spectacles, je profite de ce coup de fil pour vous demander comment se porte le théâtre aujourd'hui en Grèce. Est-il important dans la vie culturelle mais aussi dans la vie politique de votre pays?
Tout est bien compliqué. Oui, c'est très difficile de vivre en Grèce en ce moment et aussi de créer. Déjà, il n'y a plus de subventions pour le théâtre depuis 2008-2009. Il y a seulement quelques institutions privées, comme Onassis Centre Culturel, par exemple, qui ont une politique culturelle et qui ont de l'argent encore. Et très très peu de choses, comme le Théâtre National ou le Festival d'Athènes, qui dernièrement a aussi des problèmes. Donc ce que nous essayons, nous, c'est de ne pas être dépendant justement de ce système et de pouvoir être donc indépendant, voyager, présenter ailleurs, travailler ailleurs, tout en continuant d'être ici, de vivre ici et de créer ici.
Alors, vous travaillez au sein d'une compagnie, le Vasitas Group Théâtre. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler, vous, avec ce moyen d'expression artistique-là? Qu'est-ce qui vous a fait vous inscrire dans ce champ artistique?
Je ne sais pas. J'ai commencé quand j'avais 18 ans. J'étais comédienne, à la base. Je suis rentrée dans un théâtre, pour vous dire la vérité. J'ai rencontré quelqu'un, un metteur en scène, qui s'appelle Tassos Bandis. Et je le raconterai et j'ai dit, c'est là où je veux être. Et j'ai commencé à travailler dans ce théâtre. Et après, suivre l'école d'art dramatique de ce théâtre. Ensuite, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, à l'université d'Aix. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la mise en scène. Et nous avons créé la compagnie là-bas, en France.
Est-ce qu'il existe des liens entre votre compagnie, plus largement, entre le monde théâtral et les autres arts, le cinéma, la littérature, les arts plastiques?
Oui, bien sûr. Même si c'est de forme complètement indépendante et des mondes indépendants, il y a des liens, bien sûr. L'exemple, c'est notre création
Sang.
C'est Emata, comme j'en ai présenté dans Carins. Oui, voilà. Emata, c'est le mot en grec. Et c'est une lecture, c'est un texte écrit par Eftimis Philippou, qui est à la base un scénariste.
On lui doit notamment le scénario de Lobster de Yorgos Lanthimos, qui a eu le prix du jury à Cannes cette année, enfin l'année dernière, 2015.
J'ai rencontré Eftimis Philippou par Ariane Labed,
cinéaste,
qui
comédienne,
fait beaucoup de cinéma, et qui joue dans Alps, le film précédent de Yorgos Lanthimos, et qui joue aussi dans Lobster. avec Ariane, et nous avons créé la compagnie ensemble.
Pour Emata, 100 donc en grec, quel était l'objet de la commande passée à Eftimos Philippou? De quoi parle Emata?
Nous avons commencé à discuter déjà de la forme théâtrale que nous aimerions explorer, de ce que ça veut dire raconter une histoire aujourd'hui. Nous avons déjà, tout d'abord, arrivé à dire qu'une forme de correspondance est très intéressante. Donc, Emata est une forme de lettres. Il s'agit de deux amis qui échangent des lettres. Le sujet est arrivé juste après. C'est une plaie qui ne cicatrise pas, qui reste ouverte. Ils parlent, ils décrivent de cette plaie l'un à l'autre. Il y a un qui a la plaie, l'autre qui essaye tout au long de trouver sa plaie. On voit donc la façon dont ces deux personnes essayent de traiter la plaie ou pas, et à quel point, comment, de quelle façon ça influence leur entourage. Ça se passe aux années 90. C'est une décennie et c'est comme ça que ça fonctionne d'une façon un peu symbolique, on dirait. Parce que c'est des années qui, en Grèce, moi, je pense qu'il y avait un bonheur qui était artificiel. Des gens qui ne veulent pas accepter leur réalité.
Pour Domino, l'autre spectacle que vous présentez à Reims, c'est le langage du corps que vous avez privilégié. Qu'est-ce qui se passe juste avant la chute? C'est quoi l'enjeu pour vous de ce spectacle, Argy Rocciotti?
C'est un monde qui essaye de rester debout. Ça parle d'un groupe emprisonné, enfermé quelque part, qui essaye de chercher, de trouver une façon de vivre ensemble. Donc ça parle de ce menace de la faim. On se situe dans cette chute qui est bien sûr positive, dans le sens où il faut tomber pour ensuite commencer à remonter.
Merci Argy Rocciotti pour ces quelques indications sur les spectacles que vous allez présenter. Alors Emata le mardi 2 février, Domino le samedi 6 février dans le cadre du festival Reims Scène d'Europe qui va se dérouler du 28 janvier au 6 février. Merci à vous. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Fabienne Pascaud, Philippe Cheville et Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations à retrouver sur notre magnifique tout nouveau site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Seam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Ledio qui l'a conservé, la prépare à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir par Bruno Gagnère, la réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Charlotte Garçon et Antoine Guillot. À notre affiche, les premiers et les derniers de Bully Lanners, Mysterious Object at Noon d'Apichat Pong Vera Setakul. Nous évoquerons aussi plus rapidement un livre, La vision partielle, écrit sur le cinéma de Pascal Bonitzer chez Capricci, et puis deux films. L'un sort mercredi, Les délices de Tokyo de Naomi Kawase. L'un est une ressortie, The Thing de John Carpenter. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de La Dispute, les choix de Chantal Crouzel, l'invité de La Dispute, et il y aura un nouveau cadeau à gagner avec le jeu de La Dispute. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.